Bonjour. Pour faire écho à ce qui a déjà été dit à maintes reprises, c'est un plaisir de voir de nouveaux visages se joindre à nous au siège. J'aimerais commencer le message d'aujourd'hui par une définition que je répéterai probablement plusieurs fois pour ceux qui souhaiteraient la noter. La définition est la suivante. La tristesse ou le mécontentement causé par des espoirs et des attentes non satisfaits à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Je le relis. Tristesse ou mécontentement causé par des espoirs et des attentes non satisfaits à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Le mot qui correspond à cette définition est déception. Avez-vous déjà été déçu ou insatisfait par un produit ou un service que vous avez acheté? Dans lequel vous avez investi votre argent durement gagné? C'est une déception. Qu'en est-il d'un film que vous avez loué ou acheté, ou peut-être payé des milliers d'euros pour avoir le privilège d'aller au cinéma aujourd'hui, et qui s'avère être un très mauvais film, bien en deçà des attentes que vous aviez? C'est une déception. Avez-vous déjà été déçu par un dîner ou un repas que vous avez acheté ou commandé dans un restaurant? Je suis sûr que oui. Nous avons tous été déçus d'une manière ou d'une autre. Si nous y réfléchissons bien, nous connaissons chaque jour des déceptions de toute forme et de toute taille. Il suffit de s'arrêter et d'y réfléchir. Tout au long de la journée, nous avons des attentes qui ne sont pas satisfaites. Beaucoup d'entre elles sont petites, mais certaines sont grandes. Cependant, les déceptions peuvent aller bien au-delà d'une simple tristesse ou d'un mécontentement à l'égard d'un produit, d'un film ou d'un dîner. Il existe également des déceptions qui peuvent provoquer une profonde tristesse, de l'amertume, voire du ressentiment. Ces déceptions surviennent généralement lorsque nous plaçons nos espoirs et nos attentes non pas dans quelque chose, mais plutôt dans quelqu'un. Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Je vais le dire dès le départ. Dieu a besoin que chacun d'entre nous connaisse des déceptions. C'est une déclaration assez audacieuse. Dieu a besoin que nous, chacun d'entre nous, connaissions la déception. Alors que la déception va produire des sentiments temporaires de tristesse, elle peut produire du mécontentement, elle peut même conduire à un chagrin intense, à l'amertume et au ressentiment. Il est crucial pour notre vie de comprendre et de gérer efficacement tous les types de déceptions, qu'ils soient petits ou grands. Et comment nous voyons les déceptions? Il s'agit là d'un autre élément clé. La façon dont nous voyons les déceptions et le rôle qu'elles jouent dans notre vie est un excellent indicateur de notre maturité émotionnelle et spirituelle. Pensez-y. La façon dont nous gérons les déceptions peut avoir un impact considérable sur notre avenir. Aujourd'hui, nous allons donc examiner des exemples de déceptions que nous pouvons trouver dans la Bible et apprendre à mieux les gérer dans notre vie. Pourquoi est-ce important? Pourquoi voulons-nous apprendre à gérer les déceptions? Pourquoi Dieu exigerait-il, attendrait-il ou aurait-il besoin que nous connaissions des déceptions dans notre vie? Commençons par le chapitre 4 de Michée. Pourquoi Dieu voudrait-il cela? Michée, chapitre 4, verset 1. L'un de ces livres, difficile à trouver, et petit et caché dans l'Ancien Testament, j'en entends encore quelques pages. Michée 4, verset 1. Mais dans les derniers jours, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines, et les peuples y afflueront. De nombreuses nations viendront et diront, venez, et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur de Jérusalem. Il jugera des peuples nombreux, il reprendra au loin des nations fortes, et elles briseront leurs épées pour en faire des socs de charrue. Des versets très familiers à chacun d'entre nous. Et leurs lances en serpent. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils s'assiéront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et personne ne les effrayera, car la bouche du Seigneur des armées l'a dit. Quelle merveilleuse image d'un avenir qui n'est plus très loin devant nous. Au verset 5, nous l'avons lu à plusieurs reprises, car tous les peuples marcheront, chacun au nom de son Dieu, et nous marcherons au nom du Seigneur notre Dieu, au siècle des siècles. Frères et sœurs, dans un avenir très proche, nous recevrons une autorité et un pouvoir extraordinaire dans le royaume, et cela avant même ce moment. Nous qui sommes appelés à aller en premier, nous aurons affaire à des milliards et des milliards de personnes. Et vous savez ce que cela signifie? Cela signifie que nous serons responsables de milliards d'êtres humains qui, sans aucun doute, nous décevront et se décevront les uns les autres. Et comme si cela ne suffisait pas, au millénaire, au moment où nous lisons ces lignes, nous deviendrons membres de la famille de Dieu, où les gens marcheront en notre nom, et ils continueront à se décevoir les uns les autres et, parfois, à nous décevoir nous-mêmes. La façon dont nous gérons les déceptions aujourd'hui est une mesure de notre capacité à gérer les innombrables déceptions auxquelles nous continuerons à être confrontés. Cela fait partie de notre vocation, de notre avenir. Et, encore une fois, si nous y réfléchissons bien, il y a des déceptions qui se produisent tout le temps, tous les jours. La plupart d'entre elles sont petites, certaines sont plus grandes, occasionnellement, parfois, elles nous semblent insupportables, mais le fait de gérer efficacement même les plus petites déceptions, frères, même les plus petites, va nous préparer et nous aider à gérer les plus grandes et celles d'autres personnes. Et cela nous qualifiera pour le défi éternel, lorsque des êtres humains marcheront en notre nom, comme nous marchons au nom de notre Seigneur Dieu, pour les siècles des siècles. Christ a enseigné un principe très puissant qui ne s'applique pas seulement à l'argent, mais aussi à la manière dont nous gérons les déceptions dans notre vie. Christ a enseigné que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans le petit ou le moindre est aussi injuste dans le grand. Si Dieu voit que nous sommes capables de gérer les plus petites déceptions, combien plus voudra-t-il nous confier le grand nombre de déceptions à venir dans notre vie? Si nous voulons comprendre la déception et apprendre à la gérer efficacement dans notre vie, nous devons d'abord reconnaître un fait important. Personne n'a connu plus de déception que Dieu ou Christ. Personne. La liste des déceptions qu'ils ont endurées est innombrable. Si vous y réfléchissez bien, vous pourriez faire partie de cette liste. Prenons par exemple ce qui était probablement le premier. Je ne peux pas le prouver, mais il n'est pas exagéré de penser que Dieu attendait de Lucifer qu'il soit fidèle, qu'il assume ses responsabilités, qu'il réponde aux attentes de Dieu à son égard. Dieu l'a décrit comme le sceau de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, parfait dans ses voies depuis le jour où il a été créé jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Lucifer est devenu mauvais, il a péché, il s'est rebellé contre Dieu, il s'est rebellé contre le gouvernement de Dieu, et il n'était pas le seul. Au cours de cette insurrection, un tiers des dizaines, des centaines de millions d'anges l'ont suivi dans cette révolte. Vous êtes-vous jamais arrêté pour penser, et j'y réfléchissais, que Dieu a créé chacun de ces millions et millions d'anges, un par un, et qu'il connaissait le nom de chacun de ceux qui s'étaient rebellés. Il s'est soucié d'eux comme il s'est soucié de toute la création, comme il se soucie de nous. Il s'est soucié de ces anges qui l'ont déçu. Satan et ses démons étaient également déçus. Mais leur mécontentement venait du fait qu'ils n'avaient pas réussi à atteindre leur objectif de régner. Ils ont donc eux aussi dû faire face à la déception, et ils y font encore face aujourd'hui. Et comment Satan et ses démons ont-ils géré leur déception? Tournons-nous vers Matthieu, chapitre 8, parce que cela nous concerne directement, mes frères. Matthieu chapitre 8, et nous allons descendre jusqu'au verset 28, Jésus, étant arrivé de l'autre côté, dans le pays des Géraséniens, rencontra deux hommes possédés de démons, qui sortaient des sépulcres avec une extrême violence, de sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et ils s'écrièrent, « Qu'avons-nous à faire avec toi, Jésus, Fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Frères et sœurs, considérez comment la déception continue d'influencer, d'alimenter et de conduire les actions et les réactions des anges déchus eux-mêmes. Depuis que Dieu a créé l'homme, Satan et ses démons ont continuellement cherché à nous tromper, à posséder parfois des êtres humains, à les tuer et à détruire toute vie humaine. Regardez la société d'aujourd'hui, et je veux rendre cela personnel parce que c'est ce que la déception peut devenir. Satan et ses démons détestent tout ce qui me concerne, y compris ma famille. Ils détestent ma mère, qui n'est pas dans l'église. Ils détestent mon père, mes frères et sœurs, leurs épouses, leurs enfants, mes nièces et mes neveux. Frères et sœurs, Satan et ses démons vous haïssent, vous et tout ce qui vous tient à cœur, ils haïssent vos ancêtres, ils haïssent aussi vos familles, mais ils nous haïssent surtout nous. Mais c'est nous qu'ils haïssent le plus. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous devenions comme Dieu, il veut que nous soyons comme lui. Et Satan ne connaît que trop bien les sentiments intenses que la déception, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas gérée correctement, la déception dans nos vies peut produire de l'amertume, de la colère et du courroux, des sentiments de vouloir se venger, de se venger. Il veut que la déception dans nos vies provoque ces mêmes choses, frères, envers nos familles. Il veut que vous accumuliez et conserviez de l'amertume, de la colère et de l'énervement contre votre famille. Il veut que nous retenions toutes ces choses les uns contre les autres. Il veut que nous gardions ces sentiments envers nous-mêmes, individuellement, et surtout, il veut que nous gardions ces sentiments de déception qui se sont transformés en ces choses contre Dieu. Mais tout cela dit, je reviens au point que j'ai soulevé. Dieu veut que nous soyons déçus. N'est-ce pas étrange? Parce qu'il veut nous tester et voir comment nous allons gérer la déception, parce qu'elle peut grandir si elle n'est pas gérée correctement. Car tant que Satan et les êtres humains existeront, je vais vous confier un secret, la déception existera aussi. Et le potentiel d'amertume, de colère et de courroux existera toujours si Satan existe et si les êtres humains existent. Examinons donc des exemples de déception et espérons-le, tirons des enseignements de la manière dont ces personnes les ont gérées. Première question, avez-vous déjà été déçu par votre propre famille? Je vois quelques visages, oui, qui hochent la tête. Un membre de votre famille proche vous a tourné le dos, vous a trahi, vous a abandonné. Votre mariage traverse-t-il une mauvaise passe? Peut-être échoue-t-il parce que votre conjoint non converti vous donne du fil à retordre à propos des décisions que vous avez prises pour suivre la voie de Dieu. Prenons un exemple familier et voyons comment cette personne a fait face à l'une des pires déceptions familiales. Passons à la Genèse 37. Nous allons parler des déceptions familiales. Ce sont celles qui font souvent très mal, mais Dieu veut que nous apprenions à les gérer. Genèse 37 et verset 3. Nous connaissons bien cette histoire. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Verset 4. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, ils haïrent Joseph, ils le haïssaient, et il ne pouvait lui parler paisiblement. Et pour ajouter au problème, il est dit au verset 11 que ses frères l'enviaient. Nous connaissons l'histoire. Joseph part à la recherche de ses frères, qui s'occupent du troupeau de leur père, et il le trouve à Dothan. Il les retrouve tous à Dothan. Et c'est là qu'est né le complot visant à le tuer. Pensez-y comme à une déception familiale. Je peux imaginer que mon frère m'invite à une fête du 4 juillet et que pendant que je suis en route, il complote pour me tuer. C'est inimaginable. Je vais juste prendre un hot dog et un hamburger. Et il est dit ici, au verset 18, quand ils le virent de loin, avant qu'il s'approchât d'eux, ils conspirèrent pour le faire mourir. Verset 20, venez donc, tuons-le, et jetons-le dans une fosse. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. C'est un point important ou une partie importante de ce verset que je vais aborder dans un instant. Mais au lieu de les tuer, ils ont décidé de ne pas le faire et de les jeter dans la fosse. Ils ont conclu qu'il valait mieux les laisser mourir. Pouvez-vous imaginer ce qui a traversé l'esprit de Joseph à ce moment-là, lorsque tous ses frères ont mis la main sur lui? Il le traîne vers la fosse et il crie parce que je sais qu'il ne va pas se laisser faire tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai fait? Et il lui répond en lui disant tout ce qu'il a fait, et pourquoi il le déteste, et pourquoi ils vont le jeter dans une fosse. C'est une scène inimaginable. Mais alors qu'ils avaient des doutes, ils les ont jetés dans la fosse. Ils sont assis là, et ils disent, vous savez quoi? Vendons-les et gagnons de l'argent. Il y a une meilleure idée. Ne le laissons pas mourir. Faisons de l'argent avec lui. Avant même qu'il ne puisse mettre ce plan à exécution, il est dit ici que les marchands midianites l'ont trouvé en premier, et ils ont fini par le vendre. Après avoir été vendu à Potiphar, il a été accusé à tort d'agression sexuelle sur sa femme et jeté en prison. Parlons maintenant de déception. N'êtes-vous pas d'accord pour dire qu'il s'agit de déception? Après déception, tout cela à cause de ce que sa famille lui a fait subir. Et nous savons qu'il finit par être libéré. Il interprète le rêve du majordome en chef du roi d'Égypte, du boulanger en chef. Il interprète le rêve de Pharaon lui-même et, après toutes ces déceptions, la Bible nous dit qu'il était préparé pour ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu fait de lui le deuxième homme le plus puissant du pays d'Égypte. Sans doute la nation la plus puissante de la planète à l'époque. Personne n'avait plus d'influence, de pouvoir et d'autorité que le pharaon. Et vous savez quoi? Ses frères arrivent et essaient de survivre. Survivre à une famine qui frappe le pays et leurs parents, le père Israël, dont la vie est menacée à cause de cela. Que va faire Joseph? Il a l'influence, le pouvoir et l'autorité nécessaires pour les faire tous mourir. Il était parfaitement en mesure de se venger, d'exercer des représailles. Joseph a-t-il laissé l'amertume naître de cette déception? A-t-il laissé la colère ou le courroux s'exprimer? Maintenant qu'il est assis dans cette position et qu'il regarde ses frères, ceux-là même qui le déchiraient et les jetaient dans la fosse, a-t-il laissé la colère et la vengeance grandir dans son cœur? Passons à la Genèse 45. Encore une fois, nous lisons des textes dont nous connaissons la fin, et beaucoup d'entre vous se disent, j'ai déjà vu ce film, mais je veux plonger plus profondément dans la pensée de Joseph. Au premier verset, Joseph ne pouvait plus se retenir devant ceux qui se tenaient près de lui. Nous savons qu'il y a eu un va-et-vient. Ils sont retournés chez leur père Israël, Jacob, puis sont revenus. Il y avait un complot, et tout cela. Nous avançons rapidement maintenant parce que nous connaissons cette partie de l'histoire. Il crie à tous ceux qui sont dans la salle, à tous ceux qui sont dehors, et il n'y avait personne avec lui pendant qu'il se faisait connaître à ses frères. Verset 2. Et il pleura à haute voix. Ses pleurs étaient si forts qu'il est dit que les Égyptiens et la maison de Pharaon pouvaient l'entendre à cause de ses pleurs. Et vous pouvez imaginer, en lisant le verset 4, les larmes roulant sur ses joues, probablement en train de sangloter, luttant pour faire sortir de sa bouche chaque mot qu'il est sur le point de dire. Il dit, approchez-vous, je vous prie, mes frères. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne vous mettez pas en colère contre vous-même pour m'avoir vendu dans ce lieu-ci, car Dieu m'a envoyé. C'est ce qu'il a fait de son temps. Il n'a pas laissé la colère, l'amertume, la vengeance et le courroux s'accumuler dans son cœur. Il a médité sur les déceptions et les circonstances entourant sa vie et il a compris les rêves qu'il avait eus il y a longtemps. Ce n'était pas à lui de régner sur ses frères. Dieu avait préparé ce moment, permis que ces circonstances se produisent. Il est dit ici, Dieu m'a envoyé devant toi pour préserver la vie, pour aider non seulement toi, mais aussi tout un peuple, les Égyptiens. C'est ce dont je rêvais. Au verset 14 et 15, nous lisons que Joseph a pleuré avec Benjamin, qu'il a embrassé tous ses frères et qu'il a pleuré sur eux. Et après cela, ses frères, est-il dit, ont parlé avec lui. Frères et sœurs, j'évoque cette histoire particulière parce qu'elle me touche personnellement. Je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais j'ai 5 frères qui, d'une manière ou d'une autre, ont remis en question ma décision et mon engagement dans la voie de Dieu. Au cours des 10 dernières années, j'ai été tenu à l'écart d'activités auxquelles j'aurais souvent été invité et auxquelles j'aurais joyeusement participé avec eux. Et ils font cela parce que, en partie, j'ai choisi de me soumettre à Dieu. J'ai déjà mentionné que mon frère jumeau, qui a commencé il y a peu d'années parce que mes parents sont octogénaires et qu'ils voulaient que nous vivions tous ces dernières années avec eux, organise des fêtes du 4 juillet, des réunions de famille le samedi de chaque semaine. Il organise des fêtes du 4 juillet, la réunion de famille le samedi. Peu importe le jour où tombe le 4 juillet. Cela peut être un dimanche, un lundi ou un jeudi. Il le sait, mais mes frères, je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas que ces sentiments de déception, de tristesse occasionnelle, de mécontentement, se transforment en amertume, en colère, en courroux, en ressentiment ou en représailles parce que je sais ce qui est en jeu. Je suis déçu. Je suis sûr que vous pouvez tous penser à des circonstances que vous avez vécues dans des familles, mais vous comprenez aussi ce qui est en jeu. Vous avez un rêve, tout comme moi. Nous avons des rêves, tout comme d'autres personnes dans le monde qui étaient dans l'Église de Dieu. Un jour, ces mêmes membres de la famille pourront bénéficier de ce que nous faisons maintenant. Tout comme la famille de Joseph. Et pas seulement mes frères. Mes parents, les parents de ma femme, ses frères et sœurs, leurs maris et leurs femmes, les femmes de mes frères, nos nièces et nos neveux, tous ceux que Satan déteste, nous savons qu'ils pourraient potentiellement en bénéficier un jour si nous maintenons le cap, si nous gardons le cap. Et nous pouvons réfléchir à quelque chose de magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu de cette façon. Nous pouvons réfléchir au fait qu'un jour, nous pourrons peut-être dire à nos familles ce que Joseph a dit à ses frères au verset 7, « Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver une postérité sur la terre et vous sauver la vie » paragraphe une grande délivrance. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver une postérité sur la terre et pour vous sauver la vie » paragraphe une grande délivrance. Vous savez quoi? Ces déceptions familiales se réduisent très vite, n'est-ce pas, quand on y pense? Pensez à ce qui se profile à l'horizon pour eux et à la manière dont nous pourrons les aider à surmonter un jour les déceptions avec clarté. Mais vous vous dites peut-être que c'est plus facile à dire qu'à faire, en écartant les déceptions qui peuvent venir des membres de la famille. Vous ne connaissez pas ma famille. Oh, si seulement vous aviez rencontré mon oncle Bob. Nous avons tous des membres de la famille. Nous avons tous cet oncle dans la famille, n'est-ce pas? J'ai besoin d'aide. Comment pouvons-nous gérer efficacement ce genre de déception dans les familles pour aller de l'avant? Bien sûr, cela prépare le terrain pour ce que je viens de lire, mais ce premier point, je veux vous dire comment le faire. Comment gérer efficacement les déceptions qui viennent de la famille? Et cela peut s'appliquer à toutes les déceptions que nous allons aborder aujourd'hui, mais tournons-nous vers Matthieu 10. Matthieu 10. Comment pouvons-nous gérer efficacement les déceptions provenant de notre famille? Matthieu, chapitre 10 et verset 34. C'est un point très fort. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, c'est Christ qui parle. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis calme, et voici son but, l'une de ses missions, pour opposer le fils à son père, la fille à sa mère, et la belle-fille à ses belles-mères. L'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix. Vous pouvez lire ailleurs chaque jour. Vous pouvez inclure dans cette déclaration de portée à travers les déceptions. Et monsieur n'est pas digne de moi. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le fardeau que représentent les déceptions de nos familles, de nos proches. Frères et sœurs, la manière la plus efficace de commencer à se préparer à gérer les déceptions mentalement et émotionnellement est de s'y attendre. Anticipez-les chaque jour. Christ a dit qu'il avait dressé les familles les unes contre les autres. Cela signifie que Dieu a prévu qu'elles se produiraient. C'est inévitable et il n'a pas dit que certains membres de nos familles pourraient être des ennemis. Non, il a dit que certains seront nos ennemis. Rappelez-vous ce que j'ai dit, Dieu a besoin que chacun d'entre nous connaisse des déceptions. Pourquoi? Pour tester notre façon de les gérer. Et certaines des déceptions les plus difficiles que nous rencontrons sont celles qui viennent de nos familles. J'ai également dit que la façon dont nous percevons les déceptions est l'un des plus grands indicateurs de notre maturité spirituelle. Nous devons voir les déceptions, en particulier celles qui viennent des familles, sous un angle différent. Nous devrions voir les déceptions familiales comme Joseph. C'est une occasion de nous montrer dignes du Christ. C'est ce qui est en jeu ici. La meilleure façon de se préparer à faire face aux déceptions est donc de s'y attendre. Sachez qu'elles vont se produire. Si vous savez qu'elles vont se produire, vous pouvez très bien apprendre à y faire face. C'est vrai. C'est presque un oxymore de dire, oh, c'était tellement inattendu qu'il m'a déçu comme cela. Non, c'est en fait biblique. Une autre façon de gérer les déceptions de notre famille est d'être à l'aise avec le fait d'être considéré comme une déception. Pensez-y. Nous devons être à l'aise avec le fait d'être considéré comme une déception par notre famille. Les membres de ma famille me considèrent d'une certaine manière comme une déception. Ma mère trouve décevant que je ne sois plus catholique. Je vais vous révéler un secret. Je ne l'ai jamais été. Ne lui dites pas cela. Mes frères me considèrent comme une déception parce que je rate des événements familiaux importants. Et il fut un temps où on ne pouvait pas séparer les garçons. Ils me considèrent comme une déception. Et les fois où je viens, je ne traîne pas et je ne fais pas la fête avec eux comme avant. D'ailleurs, je ne le ferai pas de toute façon parce que j'ai 55 ans et que je suis trop vieille. Mais ils sont déçus. Vous n'êtes plus comme avant. Vous savez quoi, mes frères? Je suis à l'aise avec cela et vous devriez l'être aussi. Ne soyez pas contrariés, ne vous mettez pas en colère parce que votre famille vous considère comme une déception d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a beaucoup de choses positives dont ils seraient prêts à parler à mon sujet. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'ils diraient de moi. Mais au fond, ils me considèrent souvent comme une déception. Je suis sûr que c'est le cas dans vos familles. Et si ils me posaient la question, je leur dirais en bien des mots, quand je ne réponds pas à leurs attentes, je les déçois. Lorsque je ne réponds pas à leurs attentes, je les déçois. Mais vous savez quoi? Je les aime simplement, vous, moins que Christ, alors si vous devez vous mettre en colère contre quelqu'un, mettez-vous en colère contre Christ parce qu'il m'a dit de le faire. Je suis censé t'aimer moins et l'aimer plus. Et je peux résumer cela de la manière suivante, si mes parents me posaient la question, je dirais, Maman et papa, je dois vous dire que je préfère être une déception pour vous. Je ne veux pas être une déception pour vous, mais je préfère être une déception pour vous qu'une déception pour Dieu. Que peuvent-ils dire contre cela? Frères et sœurs, c'est ainsi que nous devons penser, c'est ainsi que nous devons avoir la mentalité, c'est ainsi que nous devons voir les déceptions de la famille dans nos vies. Mais à quoi cela ressemble-t-il dans la pratique? 1 Timothée, chapitre 5. Parce qu'il y a de l'action derrière ce que je dis. Il ne s'agit pas d'un état d'esprit. Nous devons le vivre. 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. Vous ne l'avez peut-être jamais vu sous cet angle. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, c'est intéressant, et surtout de ceux de sa maison, il renie la foi et il est pire qu'un infidèle. Frères et sœurs, une autre façon de gérer correctement les déceptions est de faire du bien à la famille, même si nous sommes déçus par elle. Il est dit ici, si quelqu'un ne prend pas soin des siens. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Il doit s'agir des parents, des frères et sœurs, des membres de la famille proche, car il est précisé que c'est surtout ma famille. Maintenant, je vais nuancer cela, la déclaration ici, aider les membres de la famille ne devrait jamais empêcher de soutenir le travail, d'obéir au commandement de Dieu de donner la dîme, de donner des offrandes, de donner en commun. C'est là que la ligne est tracée pour ce qui est de subvenir à mes besoins, à ceux de ma mère et de mon père, et si mes frères en ont besoin, ou si des membres de ma famille proche en ont besoin. Et il est certain que je donne la priorité à mes propres besoins, en particulier à ceux de mon foyer. En dehors de cela, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, il suffit d'être sage. Il suffit de faire preuve de sagesse. Mais il est dit que nous sommes pires qu'un infidèle si nous n'intervenons pas pour aider lorsqu'il y a un besoin et que nous sommes en mesure de le faire. Encore une fois, avec les conditions que je viens de mentionner. Prenons l'exemple de Joseph. Il est l'exemple de la façon dont il s'est occupé des besoins de sa famille. Il avait son propre foyer, mais il s'occupait des besoins de sa famille, de son père, de ses frères, malgré la façon dont il le traitait. Joseph n'a pas laissé l'amertume, la colère ou le courroux l'envahir. Au lieu de se venger, il a pourvu aux besoins des siens. Frères et sœurs, faire le bien n'est pas soumis à d'autres conditions que celles que je viens d'évoquer. Nous devons faire du bien à nos familles, même face à la déception. Car si nous ne gérons pas efficacement les déceptions dans nos familles maintenant, comment est-il possible que nous passions l'aide dans le futur? C'est ce que Satan veut entre nous et nos familles. Il veut la division, et il veut qu'un grand nombre de familles, plus tard dans le royaume, fassent de même, comme l'a prophétisé Christ. Satan ne veut pas que les membres d'une famille tuent leurs frères jusqu'à la mort, que les pères tuent leurs enfants jusqu'à la mort, que les enfants se soulèvent jusqu'à la mort pour leurs parents. Il ne veut pas seulement que des gens ou des membres de la famille tuent d'autres membres de la famille. Il veut que ceux qui sont tués parce qu'ils se sont accrochés à la vérité meurent dans un état d'amertume et de colère envers les individus qui les ont tués. Il veut un désordre absolu. C'est ce à quoi les gens seront confrontés à l'avenir, et tout commence par des déceptions. Nous nous entraînons maintenant avec nos familles pour aider d'autres familles plus tard, c'est-à-dire pour faire face aux déceptions dans les familles. Ensuite, j'ai commencé par le premier exemple en demandant, avez-vous déjà été déçu par votre propre famille? Passons au psaume 55, pour le suivant. Psaume 55, verset 1. Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas à ma supplication, sois attentif à moi, écoute-moi. Je me lamente dans ma plainte. Je me lamente dans ma déception, et je fais du bruit, je ne suis pas heureux, à cause de la voix de l'ennemi, à cause de l'oppression des méchants, car ils ont jeté l'iniquité sur moi. Car ils font retomber sur moi l'iniquité, et ils me haïssent dans leur colère. Attendez une seconde, mes excuses. J'ai dû oublier la définition de la déception. Reprenons la lecture. Tristesse et déplaisir causés par des espoirs et des attentes non satisfaits à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Attendez un peu. Pourquoi le roi David serait-il déçu par ses ennemis? Nous sommes suffisamment intelligents pour savoir qu'ils répondent à nos attentes. Si un ennemi vient contre moi, s'il m'opprime, il répond absolument à toutes mes attentes. Alors, est-ce vraiment une déception dont il parle? Poursuivons la lecture du verset 4. Mon cœur est tout meurtri au-dedans de moi. On dirait qu'il est déçu. Les terreurs de la mort s'abattent sur moi. L'effroi et le tremblement m'ont saisi, et l'épouvante m'a envahi. Il n'y a aucune raison de douter que le roi David éprouve une grave angoisse. C'est clair. Il est terrifié. Des sentiments d'horreur l'envahissent, et je peux me tromper en pensant que tout cela provient d'une déception, mais nous allons continuer à lire ici. Voyons où cela nous mène. Après avoir exprimé son désir d'échapper à tout cela, vous pouvez le lire, il veut être comme un oiseau, une colombe, et s'envoler, échapper à ses ennemis, à leurs attaques. David se sent si fort qu'il demande à Dieu, au verset 9, de détruire et de diviser les langues de ses ennemis, en d'autres termes, de leur couper la langue. Je pense que nous en savons assez pour ne pas demander à Dieu ce genre de rétribution, car nous savons que Dieu nous ordonne d'aimer nos ennemis, mais encore une fois, haïr est quelque chose que nous attendons de nos ennemis, et cela ne correspond donc pas à la définition. Cependant, David était manifestement très déçu. Comment pouvons-nous réconcilier cela? Quelle est la cause de ces sentiments intenses et de ce désir de vengeance? Oh, nous y voilà. Verset 12. Car ce n'est pas un ennemi qui m'a fait des reproches, alors j'aurais pu les supporter. Non, si c'était un ennemi, je n'aurais pas nécessairement cette prière. Je peux le supporter. C'est ce que j'attends des ennemis. Si ce n'était pas celui qui me haïssait et s'élevait contre moi, je me serais tenu à distance de lui. C'est ce que nous faisons avec les gens qui veulent être nos ennemis. Nous prenons nos distances. Je vais me cacher d'eux. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce qu'il pleurait. Ce n'est pas ce qui le faisait souffrir dans son cœur. Verset 13. Mais c'est toi, mon égal, mon guide, mon ami, que nous avons conseillé avec douceur, et nous sommes allés ensemble à la maison de Dieu. Nous avons pris ensemble un bon conseil et nous sommes allés ensemble à la maison de Dieu. J'entends maintenant le cri de David. C'est à cause de ses propres frères et peut-être de ses sœurs dans la foi qui ont fait ce à quoi il ne s'attendait pas. Ils ont trahi sa relation. Je peux maintenant poser la question que j'ai posée plus tôt. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un dans l'Église? Bien sûr, nous l'avons tous fait. Bien sûr, nous l'avons tous fait. Nous en avons tous fait l'expérience. Qu'est-ce qui rend ce type de déception plus difficile que les déceptions familiales que nous connaissons? Celles-ci ne sont pas planifiées par Dieu. En fait, Dieu s'oppose à ce que nous fassions cela les uns envers les autres, que nous nous décevions les uns les autres. Il ne veut pas que cela arrive, mais cela arrive quand même parce qu'il ne mettrait pas autant en garde contre cela si cela n'arrivait pas. Mais encore une fois, la façon dont nous voyons ces types de déceptions les uns des autres, la façon dont nous les traitons est plus cruciale que le fait qu'elles se produisent réellement, parce qu'elles se produiront. Celui qui dit que cela ne lui est jamais arrivé ment tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il ne faut pas faire face à ce genre de déception entre nous. Ne demandez pas à Dieu de me détruire ou de me couper la langue si je vous déçois, d'accord? Et je promets que je ne demanderai pas à Dieu de te détruire ou de te couper la langue si tu me déçois. D'accord? D'accord. En fait, ne suggérez même pas ce qui suit, au verset 15. Que la mort les saisisse, et qu'ils n'aillent pas seulement en enfer, mais qu'ils y aillent vite, car la méchanceté est dans leur demeure et au milieu d'eux. Frères et sœurs, c'est une forme extrême de déception parmi les frères. Nous ne pouvons même pas penser cela, mais David l'a fait. Pensez à ceux qui ont trahi et abandonné l'Église. C'est la forme la plus extrême. Oui, ils ont trahi Dieu, oui, ils ont trahi Christ, mais oui, ils nous ont aussi trahis, et certains d'entre eux continuent d'attaquer. Comment faire face à cette situation? Parce que si nous apprenons à gérer le pire, nous avons une chance de gérer les plus petits d'entre nous qui maintiennent le cap, désireux de continuer. Regardons Christ. Regardons-le. Il n'a pas échappé à la souffrance et au chagrin causé par la déception des siens. Passons à Matthieu 26, car il y a une façon de gérer les déceptions causées par ou envers les uns et les autres. Christ aurait pu laisser la tristesse et le mécontentement se transformer en amertume, en colère, en rage et en pensée de vengeance. Il a eu de nombreuses occasions de laisser les déceptions continues, se transformer en ce genre de choses. Il aurait pu laisser cela se produire. Pourquoi? Parce qu'il était aussi un être humain. Il était Dieu, mais il était Dieu dans la chair. Dans Matthieu 26, nous trouvons Christ dans le jardin de Gethsémani. Verset 47, comme Christ parlait encore à Pierre et aux disciples, voici que Judas, l'un des 12 apôtres qui avait été avec lui, vint, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons. C'est le sens de ce mot. Imaginez la scène. Commence à évoquer des images, des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Judas, qui l'avait livré, leur donna un signe en disant, celui que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le. Saisissez-le vite. Il s'approcha aussitôt de Jésus, lui dit, Salut, maître, et le baisa. Verset 50. Et Jésus lui demanda, Ami, d'où viens-tu? C'est cela. Ils mirent la main sur Jésus et l'emmenèrent. La liste des déceptions, mes frères, va s'allonger à chaque phrase, car je vais les énumérer pour vous dans un instant. Verset 51. Et voici que l'un d'eux, qui était avec Jésus, étendit la main, tira son épée, frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille. Si vous lisez le récit dans Jean, vous verrez que c'est Simon-Pierre qui a fait cela. Jésus lui dit alors qu'il est probablement en train de rattacher l'oreille au serviteur du grand prêtre, ce qui suit, range ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Pensez-vous que je ne puisse pas maintenant prier mon Père et qu'il me donne plus de, pas seulement 12 légions, plus de 12 légions d'anges? Suite. 55. À l'heure même, Jésus dit à la foule, sortez-vous contre moi comme un voleur, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi? Chaque jour, j'étais assis avec vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela a été fait afin que s'accomplissent les écritures des prophètes, et quand les disciples ont vu qu'ils n'allaient pas résister, envoyer ces anges avec la puissance et l'autorité qu'ils pouvaient exercer, qu'ont-ils fait? Ils l'ont abandonné et se sont enfuis. Ils l'ont quitté et abandonné. Passons maintenant en revue les déceptions, la liste des déceptions que Christ a subies pendant ces quelques instants, et la façon dont il a réagi à chacune d'entre elles. Judas, l'un des apôtres du Christ, l'a trahi en l'embrassant pour donner un signal à la foule. Comment Christ a-t-il réagi à cette déception? Par la miséricorde et la bonté. Avez-vous déjà remarqué ou pris note du fait qu'il s'est adressé à lui en l'appelant ami? Je ne sais pas si Judas, dans mon livre, s'il me faisait cela, serait considéré comme un ami. J'aime ce mot. Je l'utilise assez souvent parce que je le pense, mais quand il s'agit de Judas, je ne sais pas. La pitié et la gentillesse. C'est ce qu'il fallait pour pouvoir l'appeler ami à ce moment-là et lui permettre de l'embrasser. Pierre a eu recours à la violence, bien que Christ lui ait enseigné de tendre la joue gauche s'il est frappé sur l'autre joue, et Pierre n'a même pas été giflé. Il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Comment Christ a-t-il réagi? Humilité et douceur, parce que c'est ce qu'il aurait fallu, de l'humilité et de la douceur, pour ne pas déchaîner ce genre de pouvoir qu'il avait au bout des doigts, si vous voulez. Plus d'une douzaine de légions d'anges, et cela aurait été fait avec le soutien du Père. La multitude qui écoutait chaque jour Christ enseigner dans le temple l'a appréhendé comme un vulgaire criminel. Vraiment. Comment Jésus a-t-il réagi face à la déception de ses compatriotes juifs? Il a fait preuve de patience. Enfin, tous les disciples l'ont abandonné et se sont enfuis. Qu'a fait Christ à l'égard de tous ces gens, y compris ses disciples? Frères et sœurs, il leur a pardonné. Il s'agit là d'une des manifestations les plus extraordinaires de réaction ou d'action face à un assaut absolu de déception. Christ n'a manifesté aucune amertume, aucune colère, aucun courroux, aucun acte de représailles à l'égard de l'un d'entre eux. La question est de savoir comment vous auriez réagi ou agi dans ces circonstances avec une telle puissance. La question est de savoir comment j'aurais réagi avec ce genre de pouvoir et d'autorité. Pensez à Joseph. Pensez au Christ. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire lorsque nous avons des différends ou des déceptions entre nous. J'ai besoin d'aide. Mes attentes et mes espoirs sont grands à l'égard de mes frères en Christ, et lorsqu'ils me déçoivent, cela me fait mal. Mais comment y faire face efficacement? Eh bien, rappelons la liste. Il a fait face à ses déceptions par la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la longanimité et le pardon. Dieu s'attendrait-il à moins? Lisons Colossiens 3. Allons à Colossiens 3 pour répondre à ce qui devrait être une question rhétorique. Bien sûr que non. Et au verset 12. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde. C'est là que cela se passe. Revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Les voici. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres. Si quelqu'un a une querelle, ce mot signifie, frère, Quelque chose à reprocher. Si vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un dans l'église, si vous avez une déception à exprimer ou que vous avez ressenti de la part de quelqu'un, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien parfait, et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à laquelle vous êtes aussi appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. Nous reviendrons sur cette dernière déclaration un peu plus tard. Il y a trois choses que vous pouvez faire pour gérer efficacement les déceptions qui se produiront parmi nous tous. Premièrement, nous devons nous rappeler régulièrement que toute personne dans cette salle, nous l'avons entendu tout à l'heure, la personne à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous, toute personne qui vous déçoit dans l'église, vous devez vous rappeler régulièrement, chaque jour, qu'elle est sainte et bien-aimée tout comme vous. En d'autres termes, il ne faut jamais développer la moindre attitude plus sainte que toi ou penser que tu es plus spécial qu'un autre, ou que je suis plus spécial qu'un autre, parce que lorsque nous le faisons, lorsque ces déceptions se produisent, c'est là que l'on passe de la tristesse ou du mécontentement à l'amertume, à la colère, au courroux et aux pensées de représailles, lorsque nous pensons que nous sommes meilleurs que l'autre. Nous nous rappelons donc régulièrement que nous sommes tous considérés comme saints et aimés par Dieu. C'est très simple. C'est ainsi qu'il a commencé son discours aux Colossiens. Deuxièmement, il faut s'habiller tous les jours. Nous nous habillons tous les jours. Veillez à porter les mêmes vêtements que ceux que Christ portait ce soir-là dans le jardin. Il s'en prenait constamment à lui. Nous sommes constamment déçus les uns par les autres. Le Dieu de chair était miséricordieux, bon, humble, doux et longanime. Nous devons l'être aussi. Nous devons nous habiller, revêtir ses qualités tout le temps, pour les petites choses comme pour les grandes. Avez-vous remarqué ceci? Je trouve extraordinaire, rien qu'en méditant, que Christ se soit adressé à chaque personne qu'il a déçue cette nuit-là dans le jardin. Il n'a laissé personne de côté. Il leur a parlé spécifiquement. Et frères, lorsque nous sommes déçus entre nous, nous devons l'être aussi. Nous devons le faire. Nous devons nous parler les uns aux autres lorsque c'est approprié. Nous devons nous parler lorsque nous sommes déçus. C'est parfois nécessaire, mais nous devons le faire en étant habillés de ces choses. Si tu me déçois, je dois te parler avec ces mêmes choses. Si tu me parles ou si tu es déçu par moi, tu dois me parler avec ces mêmes vêtements. Nous devons le porter tous les jours. C'est notre protection. Tout comme l'armure de Dieu, nous devons porter ces choses chaque jour. Et troisièmement, supporter et pardonner. Vous savez ce que signifie supporteur? Vous supportez tout simplement. J'aime bien cela. Mon père avait l'habitude de dire, lorsque nous nous mettons en colère, eh bien, supporte-le. Il suffit de le supporter. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Apprendre à s'entendre. Supporter l'autre. C'est ce que nous devons faire. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Paul le dit très clairement, et pardonnez rapidement, sinon cela va s'aggraver. Les déceptions se multiplieront, ainsi que les sentiments qui y sont associés. C'est très simple, mes frères. Maintenant, il s'agit de gérer les déceptions entre nous et je peux continuer. Avez-vous déjà été déçu par vous-même, dans les petites comme dans les grandes choses? Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. Peut-être que vous vous êtes fixé comme objectif d'être en meilleure santé physiquement, peut-être que sur le plan personnel en termes de traits de caractère ou sur le plan professionnel dans votre carrière, vous vous êtes fixé une attente ou un espoir pour vous-même. Peut-être qu'une relation interpersonnelle avec quelqu'un ou ses compétences, vous essayez de les développer et vous en faites un point central de votre vie spirituelle. Quel que soit le domaine, nous nous décevrons tous. Nous sommes tous en deçà de nos propres attentes, de nos propres espoirs, et il n'y a pas de meilleurs exemples dans la Bible que les apôtres Pierre et Paul. Luc 22 et le verset 31. Nous lisons au verset 24 qu'ils se disputaient entre eux pour savoir qui devait être considéré comme le meilleur de tous les temps, et Christ les réprimande parce que chacun pensait qu'il devait être le meilleur. Je les aurais laissés être Goa. Allez-y, soyez les plus grands. Et soudain, il se tourne vers Pierre, je trouve cela intéressant, qui a peut-être été un peu trop animé en soutenant son candidat, lui-même. Verset 31. Simon, Simon, voici que Satan veut t'avoir, pour te passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu te seras converti, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Fortifiez vos frères. Et Pierre répondit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Il était plutôt confiant, n'est-ce pas? Il a placé ses attentes très haut. Il avait de grandes espérances en ses capacités. Il se considérait comme l'un des plus grands de tous les temps. Je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies renié trois fois de m'avoir connu. Et si vous vous reportez à Luc, vous verrez que Pierre ajoute et répond, même si je meurs avec toi, je ne te renierai pas. Je vais lire les versets 61 et 2. 61 et le verset 62, en avançant rapidement jusqu'à ce moment, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. C'est tout ce qu'il fallait. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Et il a suffi d'un regard du Seigneur. Revenons une dernière fois à la définition. Chagrin ou ressentiment causé par des espoirs et des attentes non satisfaits à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Pierre était déçu de lui-même, et il aurait dû l'être. Il a renié Christ. Il a joué un grand jeu, plus confiant ou arrogant qu'il n'aurait dû l'être. Pierre avait déjà entendu Christ déclarer, Quiconque ne me confesse pas devant le Père, je ne le confesserai pas devant le Père. Quiconque ne confesse pas mon nom devant les hommes, je ne le confesserai pas devant le Père. Il le savait. Frères et sœurs, nous échouons tous, même avec l'Esprit de Dieu, que Pierre n'avait pas. Nous ne renierons peut-être pas Christ par nos paroles, mais il arrive que nous renoncions au Christ dans ce mode de vie par nos actes. Parfois même avec nos mots, mais le plus souvent avec nos actes, et lorsque nous échouons, les sentiments de déception envers nous-mêmes peuvent être les plus douloureux. Et c'est normal. Lorsque quelqu'un d'autre nous déçoit, il est facile d'être déçu par cette personne. Mais c'est plus difficile et cela devrait être plus douloureux lorsque nous échouons nous-mêmes, c'est ainsi que cela devrait être conçu. Cela nous permet de rester humbles. Mais que pouvons-nous faire de ce genre de déception? Romains 7, Romains chapitre 7. Lorsque nous sommes déçus de nous-mêmes, pas lorsque nous sommes déçus de notre famille, pas lorsque nous sommes déçus des autres entre nous, mais lorsque nous sommes déçus de nous-mêmes. Je vais me contenter de paraphraser les versets 15, 19 et 24 parce que la King James peut rendre ce texte un peu verbeux et confus, mais il s'agit là d'une phrase puissante concernant Paul. J'ai dit qu'il était aussi un grand exemple. Verset 15. Je me retrouve à faire ce que je ne permets pas de faire, je ne le fais pas. Et ce que je déteste faire, c'est ce que je fais. Verset 19. Le bien que je devrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je n'oserais pas commettre, C'est ce que je finis par faire. Verset 24. Le point culminant de ces pensées, malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Frères et sœurs, nous pouvons sentir, si vous lisez ce passage, la profonde déception que l'apôtre Paul avait en lui-même et il avait l'Esprit de Dieu, contrairement à Pierre dans l'autre récit. Il était converti. La manière dont nous avons géré la déception en tant qu'hommes et femmes convertis, hommes et femmes guidés par l'Esprit, est un autre indicateur puissant de notre maturité émotionnelle et spirituelle. Que devons-nous faire lorsque nous sommes déçus par nous-mêmes? Eh bien, premièrement, comme Pierre, laissons l'aiguillon de la déception nous frapper comme il l'a fait. N'ayez pas peur d'être triste et affligé lorsque vous vous décevez, lorsque vous ne répondez pas à vos attentes par rapport à certaines choses. Mais cela ne doit pas s'arrêter là. Changez, et en cas de péché, repentez-vous. Demandez l'aide ou le pardon de Dieu lorsque vous ne répondez pas à vos attentes et à vos espoirs. Et au verset 25, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce qu'il fait. Rappelez-vous, dans Colossiens 3, j'ai dit que nous reviendrions sur cette phrase. Soyez reconnaissants. L'un des meilleurs moyens d'éliminer ces sentiments de déception lorsque les choses ont été réglées, lorsque la poussière est retombée dans nos vies, c'est d'être reconnaissant, parce que si Dieu est miséricordieux, s'il est bon et indulgent avec nous, si nous croyons qu'il nous précède, qu'il nous supporte et qu'il nous pardonne, et si nous avons vraiment pris l'engagement de nous y remettre, soyons reconnaissants. Car plus on est reconnaissant, moins il y a de place pour la tristesse, la déception et l'amertume envers soi-même. Soyez reconnaissants. Nous avons une autre chance. Demain est un autre jour. Je vais m'y remettre parce que Dieu ne veut pas que nous revivions, que nous nous complaisions dans la tristesse et que nous nous en prenions à nous-mêmes lorsqu'il s'agit de déception, et certaines personnes sont vraiment mauvaises à cet égard. Il y a des gens qui ne sont pas assez durs avec eux-mêmes, mais il y a des gens qui sont trop durs avec eux-mêmes. Nous devons trouver cet équilibre dans nos vies de fils et de filles de Dieu. Voilà, mes frères, la clé. Laissez-vous frapper par l'aiguillon de la déception. Demandez l'aide de Dieu. Engagez-vous à changer. Demandez à Dieu de vous pardonner. Cessez de pécher et soyez reconnaissants. Reprenez le flambeau. Le dernier type de déception, avez-vous déjà été déçu par Dieu? C'est une question piège, car Dieu ne déçoit pas, n'a jamais déçu et ne décevra jamais. La bonne question est la suivante, avez-vous déjà été déçu par Dieu? Et la réponse honnête est oui, parce que si vous me dites que vous n'avez jamais été déçu par Dieu, parce que Dieu ne peut pas vous décevoir, alors vous êtes un homme ou une femme plus grande que certains des grands de la Bible. Vous êtes certainement un homme ou une femme plus grande que moi. Prenons un exemple, celui de Naomi. Passons à Ruth. Ruth, chapitre 1. Nous avons tous été déçus. Après avoir déménagé à Moab pour échapper à la famine, Naomi est confrontée à une déception et à un chagrin encore plus grand lorsque son mari et ses deux fils meurent et qu'elle retourne à Bethléem avec un sentiment d'amertume et de vide. Peut-être se demande-t-elle pourquoi Dieu a permis qu'il meure, son mari et ses deux fils. Frères et sœurs, nous pouvons nous poser des questions dans notre vie. Pourquoi moi? Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi de merveilleux saints meurent-ils avant que le royaume n'arrive? Pourquoi le royaume prend-il un peu plus de temps? Nous pouvons être déçus, mais Dieu n'a jamais déçu personne. Ruth, chapitre 1 et verset 20, et elle leur dit. Elle répond à ceux qui lui demandaient si elle était Noémie. Elle avait été absente pendant un certain temps et toute la ville était émue par sa situation. Et voici ce qu'elle dit. Ne m'appelez pas Naomi. Vous entendez déjà l'amertume dans sa voix, n'est-ce pas? Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Ce mot signifie amère. Les gens lui demandaient comment elle allait, et elle a répondu, ne m'appelez pas Naomi. Vous pourriez aussi bien m'appeler Mara, amère. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant m'a traité avec beaucoup d'amertume. Je suis sorti plein et le Seigneur m'a ramené vide. Pourquoi donc m'appeler Naomi? Car le Seigneur a témoigné contre moi et le Tout-Puissant m'a affligé. La déception de Naomi était si intense qu'elle a ouvertement partagé ses sentiments sur le fait que Dieu l'avait soi-disant maltraitée, et permettez-moi de vous dire, frère, que c'est du très haut niveau. Mais nous pouvons tous tomber dans ce travers. Nous ne le faisons peut-être pas aussi ouvertement, mais nous pouvons faire des commentaires aux autres à l'intérieur de l'Église, ou pire encore en dehors de l'Église, en nous demandant pourquoi Dieu nous traite de cette façon. Nous pouvons tous tomber dans ce travers. Ce n'est pas parce que les circonstances sont réelles et que les sentiments le sont tout autant que Dieu est fautif. Dieu ne déçoit jamais. Je ne cesserai de le répéter et nous pouvons apprendre de Naomi. Que pouvons-nous apprendre d'elle? Eh bien, elle a finalement cessé de se concentrer sur sa propre situation et elle a commencé à aider Ruth dans sa situation décevante, et c'est alors que les choses ont commencé à s'arranger. C'est ce que nous pourrions trouver dans les chapitres 2 et la dernière partie du chapitre 3. Naomi soutient Ruth, lui donne des conseils au sujet de Boaz. Lorsqu'elle a cessé de se concentrer sur sa situation, de se plaindre ouvertement de ce qu'elle pensait que Dieu faisait dans sa vie, et qu'elle a commencé à se concentrer sur la situation décevante d'une autre personne, oh, regardez ce qui se passe. Chapitre 4, verset 13. Allons-y. Nous connaissons l'histoire, mais elle vaut la peine d'être lue, car regardez ce qui se passe lorsque vous changez d'objectif. Verset 13. Boaz prit Ruth pour femme, et lorsqu'il entra en elle, le Seigneur lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Noémie, celle-là même auprès desquelles elle se plaignait, « Béni soit le Seigneur, qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans parents, afin que son nom soit célèbre en Israël, et qu'il soit pour toi le soutien de ta vie et le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, qui t'aime et qui vaut mieux que sept fils, l'a mis au monde. » Naomi prit l'enfant, le coucha sur son sein et l'allaita. Elle s'est même préoccupée de cet enfant, les femmes de son entourage lui donnèrent un nom, en disant, « Un fils est né de Noémie. » Et elles lui donnèrent le nom d'Obed, il est le père de Jessé, mes frères. Frères et sœurs, le père du roi David. Oh, si Ruth avait compris le plan de Dieu, elle ne se serait peut-être pas plainte si ouvertement de sa situation. Frères et sœurs, Dieu veut que nous comprenions que quelles que soient les circonstances, les déceptions, il ne nous décevra pas, parce qu'il a un plan, mais un mot d'avertissement, et cela parle de la maturité spirituelle. Nous pouvons trouver facile de louer Dieu après coup. Une fois que la situation s'est améliorée, qu'il nous a délivrés des circonstances décevantes, nous pouvons alors aller devant Dieu et dire, « Tu ne nous déçois plus, Dieu. Tu as fait du bon travail. Tu m'as sorti de ce pétrin. Merci beaucoup. Je ne serai plus en colère contre toi. Je ne serai plus amer envers toi. Je vais être triste de la situation parce que tu as trouvé en toi la possibilité d'arranger les choses. Frères et sœurs, cela semble ridicule, n'est-ce pas? Parce que cela l'est. C'est tout à fait vrai. Nous devons apprendre à gérer la déception, en particulier lorsqu'il s'agit de sentiments de déception à l'égard de Dieu. Philippiens, chapitre 4 et verset 6. Dieu veut que nous soyons meilleurs que Naomi en ce qui concerne les déceptions et les situations que nous ne pouvons pas contrôler. Verset 6. Prenez garde à. C'est-à-dire ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est encore là, faites connaître votre demande à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Christ Jésus. Verset 11. Ce n'est pas par moi que je parle, car j'ai appris. Frères et sœurs, il faut apprendre à gérer la déception, qu'il s'agisse de votre famille, des autres, de la déception en nous-mêmes ou de la déception à l'égard de Dieu. Nous devons apprendre à y faire face. En quelque état que je sois, je sais me contenter. Je sais m'abaisser. C'est décevant, et je sais abonder, en tout lieu et en toute chose, je suis instruite à la fois à me rassasier et à avoir faim. C'est décevant, à la fois pour abonder et pour souffrir du besoin. Cela aussi peut être décevant. Frères et sœurs, il y a des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler et nous n'avons personne à blâmer pour cela. Nous ne pouvons pas blâmer nos familles. Nous ne pouvons pas blâmer nos amis. Nous ne pouvons pas blâmer notre patron. Nous ne pouvons pas blâmer nos conjoints, nos enfants. Nous n'avons personne à blâmer. Nous ne pouvons même pas blâmer Dieu. Dieu permet que ces circonstances se produisent et Paul dit que c'est pour que nous apprenions à gérer les déceptions. Hébreux 13. David a crié à Dieu en une occasion, Combien de temps m'oublieras-tu, Seigneur? Jusqu'à la fin des temps? Combien de temps me cacheras-tu ta face? Mais ici, on nous rappelle qu'il faut être satisfait et on nous fait une promesse très semblable à celle que Christ a faite à ses disciples. Verset 5. Que notre conduite soit exempte de convoitise, et que nous nous contentions de ce que nous avons, car il nous a dit qu'il ne nous quitterait jamais et ne nous abandonnerait jamais. Frères et sœurs, allons-nous être égocentriques et convoités? Placerons-nous nos espoirs et nos attentes dans les choses et les gens de ce monde ou placerons-nous notre espoir en Dieu, nos attentes en Dieu? Parce qu'il est dit qu'il ne nous quittera jamais et ne nous abandonnera jamais. Il ne nous décevra jamais. Le dernier verset pour enfoncer le clou alors que nous terminons. 1 Timothée, chapitre 6, 1 Timothée 6. Nous voulons parler de l'atténuation des déceptions inutiles. En d'autres termes, il s'agit de les écarter de votre vie. Ne pas connaître un grand nombre de déceptions dans notre vie. Cela s'adresse aux jeunes, aux personnes âgées et à tous ceux qui se trouvent entre les deux. Septième verset, un verset à mémoriser, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est certain que nous ne pouvons rien en emporter. Si vous voulez éviter beaucoup de déceptions, inspirez-vous de ce verset. Tu as commencé avec rien, devine quoi, tu finiras avec rien. La seule chose qui restera, c'est votre capacité à gérer les déceptions et le caractère de Dieu, bien sûr. Ayant donc de la nourriture et des vêtements, soyons satisfaits. Dans le verset précédent, nous avons dit, Contentons-nous de ce que nous avons. Mais ce verset est encore plus précis lorsque Paul s'adresse à Timothée, et plus particulièrement au ministère. Ayant de la nourriture et des vêtements, soyez satisfaits. C'est un excellent moyen d'éviter toute déception. Si vous n'espérez et n'attendez rien d'autre que la nourriture et le vêtement, bien sûr, un toit au-dessus de nos têtes, vous vous donnez les moyens de réussir et de ne pas être déçus chaque jour. Si nous regardons le verset 10, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En le convoitant, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés de beaucoup de douleurs. On pourrait y ajouter le mot déception. Les gens qui aiment l'argent, les gens qui convoitent dans l'Église, c'est de cela qu'ils parlent. s'éloigner de la foi. Vous savez à quoi ils s'exposent? Des chagrins et des déceptions continuelles en eux-mêmes, chez les autres, etc. Frères et sœurs, voici mon dernier conseil. Réduisez vos attentes et vos espoirs dans les choses de ce monde, et augmentez vos attentes et vos espoirs dans les choses du ciel, parce que désirer les choses que ce monde offre ne mène qu'à, comme il est dit, beaucoup de chagrin. Je suis passé par là. Les amis de ce monde vous décevront, certains vous trahiront même. Ils trahiront votre confiance. L'emploi. Il se peut que vous n'obteniez pas l'emploi que vous vouliez désespérément. Vous pouvez le perdre au profit d'une personne moins qualifiée pour de mauvaises raisons. Peut-être ne recevrez-vous pas la promotion ou l'augmentation que vous espériez pour changer votre situation financière. Peut-être que quelqu'un n'a pas fait sa part ou sa juste part dans un projet ou un événement et vous a laissé plus qu'un peu en colère. Toutes ces situations sont des déceptions et bien d'autres encore. Vous pouvez y penser vous-même. Si nous n'apprenons pas à gérer les déceptions, pas seulement celles que nous avons mentionnées, nous risquons de développer et d'entretenir l'amertume, la colère, le courroux et le désir de vengeance envers la famille, les amis, les autres et même Dieu. Frères et sœurs, la solution, c'est de placer nos affections, nos espoirs et nos attentes sur les choses d'en haut et de gérer les déceptions comme Dieu l'enseigne dans sa parole et d'aider les autres à traverser des circonstances décevantes, même s'ils vous déçoivent. Aider les autres dans des circonstances difficiles et décevantes, même s'ils vous considèrent comme une déception. Si nous faisons ces choses, si nous appliquons ce que nous avons appris, vous savez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Vous ne serez pas déçus à la fin.